Je vous invite à ouvrir vos Bibles à 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 6. Nous arrivons donc à la leçon 7 dans notre série « Le prix d'un ministère efficace » et une des leçons les plus importantes qui touche vraiment notre corps, notre cœur, nos pensées au plus près. C'est quelque chose d'assez intime, assez puissant. C'est une leçon, c'est une vérité que j'ai énormément utilisée avec d'autres frères et sœurs, des gens qui posent des questions par rapport à des convoitises, parce que malheureusement on a pratiquement tous un péché qui nous colle à la peau. C'est le premier péché dans lequel on tombe quand on s'éloigne de Dieu. Il y a d'autres péchés qui nous dégoûtent. Je veux dire, on ne les trouve même pas attrayants. Mais il y en a certains qui sont vraiment là, soit c'est quelque chose qui vient de notre passé, qu'on n'a jamais vraiment réussi à... dont on n'a jamais réussi à se libérer, et on a des convoitises. Alors, ces convoitises, si on leur permet de s'épanouir et de se développer, de se multiplier, c'est un peu comme des champignons. Je parlais l'autre jour par rapport aux blattes, aux cafards. Le frère disait, quand les cafards arrivent dans une maison, si on ne les arrête pas rapidement, mais ils vous envahissent, ça peut devenir des centaines, même des milliers. Il y a des animaux et des plantes qui se multiplient à vitesse grand V et qui envahissent tous les espaces que l'on veut bien leur laisser. Certaines mauvaises herbes sont comme ça. Ça vous couvre le jardin et vous avez l'impression de vraiment perdre la bataille. Bien, il y a des convoitises et quand on n'opère pas, quand on ne fait pas une intervention chirurgicale pour les exciser, pour les enlever, eh bien, elles gagnent du terrain, elles nous remplissent, elles nous pourrissent la vie. Bon, quand on n'est pas sauvé, on dit, mais c'est normal, c'est naturel. Le monde dit, mais c'est naturel, vas-y. Au contraire, si tu ne fais pas tes convoitises, tu vas être déséquilibré, tu vas être mal ajusté socialement. C'est un fiafé mensonge. La clé de vivre en société, c'est le contrôle de soi-même. Laissez libre accès à ses convoitises, faites-nous des esclaves. Et asociaux, hein, on n'arrive pas à être avec d'autres parce qu'on est complètement consumé par soi-même. On tourne totalement autour de soi-même. C'est sans doute aussi ce qui explique la fragilité de notre société. Nous sommes dans un monde d'égoïstes, de gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes et qui doivent vivre ensemble. Alors c'est très très difficile. Mais Dieu donc choisit ses serviteurs selon sa grâce. Hier soir, Adrien nous faisait lecture de 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, pas beaucoup de nobles, pas beaucoup de puissants. Et donc Dieu choisit ces gens-là, insignifiants, selon les critères du monde. Et pourquoi? Pour que personne ne se glorifie, mais que les gens qui se glorifient dans le Seigneur. Il tient absolument à recevoir la gloire. Et pourquoi tient-il tellement à recevoir la gloire? Mais parce qu'il mérite de recevoir la gloire. Et ce serait un acte criminel et de non-sens pour Dieu de partager sa gloire avec ses créatures. C'est très souvent qu'on voit ça. Des créatures qui veulent avoir la gloire du Créateur. Ça n'a pas de sens. Et donc, Dieu veut recevoir la gloire. Parce que si la gloire va vers les créatures, les gens vont prendre les créatures pour les dieux. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Et en adorant la créature, ils vont oublier d'adorer le Créateur. Et s'ils n'adorent pas le Créateur, ils ont tout de travers, ils ne comprennent rien à rien. On a vu avec M. Tisdall, on a mis sur le trône de Dieu le grand H, le hasard. Nous sommes les adorateurs du hasard. Et notre confession de foi, c'est la nature fait bien les choses. La nature ne fait rien. La nature, c'est la nature, c'est ce qui est. Elle ne fait rien. Elle ne fait qu'agir. elle ne fait que exister selon les lois qui sont mises en place par quelqu'un d'autre. Bon, en tous les cas, Dieu ne veut pas donc que nous recevions la gloire. Donc il a choisi des gens extraits dont le public va dire, je ne sais pas comment ils y font, eux, pour faire ça, ils n'en ont pas les capacités, pourtant ils y arrivent, ça ne doit pas être eux, ça doit être quelqu'un au-dessus d'eux, ça doit être, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas eux. Et nous on dit, ben, c'est le Seigneur justement, la preuve qu'il existe. Et donc Dieu veut combler nos déficiences, il veut combler nos points faibles par sa force. Alors souvent, cette faiblesse, c'est la faiblesse aussi dans la chair. Dans la leçon, ça dit, les pasteurs sont souvent plus sensibles que d'autres à la tentation, et c'est vrai. Un pasteur qui dit, moi je suis froid comme la glace, rien ne m'atteint, je suis une machine à prêcher, je suis un cerveau théologique, je n'ai pas de sentiments. Mais les gens ne vont pas venir auprès de lui. Parce qu'ils vont dire, oui, chaque fois qu'on a un problème, tu ouvres la Bible, chapitre, verset, mais on dirait que tu ne nous comprends pas et tu n'as aucune compassion. Alors c'est bien tes réponses, mais ça ne me parle pas. Parce que je ne sens pas que toi, tu t'intéresses à moi. Donc le pasteur, le responsable spirituel, celui qui va conduire les âmes, doit être sensible aux autres, avoir de la compassion. Mais on peut avoir une compassion qui va trop loin, et ça arrive quelquefois, un pasteur qui a une femme dans son assemblée, je vous fais le discours qui est dangereux. Oh pasteur, il n'y a que vous qui pouvez me comprendre, il faudrait qu'on se voie, mais... Alors que le pasteur dit, mais je viens avec mon épouse, oh oui, mais votre épouse elle est gentillette et tout ça, mais... Vous savez, j'ai des choses à vraiment partager. Est-ce qu'on peut se voir tous les deux seuls? Venez chez moi. Bon, le pauvre gars, il ne se rend pas compte. Il va aller chez elle. Et puis, je ne vous raconte pas des choses imaginaires. Hein. Il peut habiller d'une manière spéciale et elle raconte son histoire de misère. Et le pasteur, il a le cœur sur la main. Il est plein de compassion. Et ils pleurent ensemble. Et puis, on s'approche de lui. Et puis, après un petit moment, ils ont une relation qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et ça arrive trop fréquemment. Alors, ça tient en fait du fait de sa compassion, ça tient aussi de la séduction de la personne, peut-être les deux tombent dans un panneau sans l'avoir vraiment prévu, mais on a une nature charnelle, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous arriver, et pas uniquement au pasteur, mais à tous. Mais il est évident que le diable va tirer plus sur le responsable, tout comme un ennemi qui va tirer davantage sur le colonel que sur la plus jeune recrue. Si on peut faire tomber un grand officier, ça va semer la zizanie dans les troupes, on n'aura pas de direction. Comme on tire vers la tête plutôt que vers la main si on veut tuer quelqu'un. Et donc, on a besoin de savoir... On a besoin de savoir nous-mêmes que nous avons des convoitises, que nous aurons des convoitises. Celui qui dit, mais moi ça ne me concerne pas, je n'ai jamais de convoitises, mais dire, vous avez ajouté à vos autres péchés celui de menteur et d'hypocrite. Malheur à vous si vous dites que vous n'avez pas de faiblesse. Vous venez de révéler votre plus grande faiblesse. Et donc, en Corinthiens 10, 13, il dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors, on pourrait penser, mais si Dieu nous aide tellement, pourquoi ne nous éloigne-t-il pas de la tentation? Pourquoi n'empêche-t-il pas la tentation d'arriver jusqu'à nous? Si on n'était jamais tenté et si on n'avait jamais de la tentation, on ne connaîtrait jamais la puissance de Dieu pour nous en délivrer. Et cette puissance de Dieu veut se montrer. Alors, bien sûr, Dieu limite nos tentations. Il y a des gens qui disent, je suis tenté, je sais que je ne vais plus tenir, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'amène de si grandes tentations, je crois qu'il veut me faire tomber. Non, la parole est là pour dire, si une tentation arrive sur nous, et quand on dit tentation, il y a deux choses. Une sollicitation à faire le mal, ça c'est la tentation. Et puis une épreuve. Le mot veut dire aussi une épreuve, comme une maladie ou autre. Les deux sont appelés tentations dans la Bible. Donc, soit une épreuve ou une sollicitation à faire le mal, Dieu ne nous permet jamais d'être testé au-delà de notre capacité en Christ de résister. Si nous cheminons dans l'obéissance avec Dieu pendant plusieurs années, si nous grandissons dans la connaissance de Dieu, notre capacité de résister à la sollicitation à faire le mal, ou notre capacité de surmonter et d'être victorieux dans les difficultés, cette capacité va grandir avec la maturité. Vous avez un enfant de 1 an, vous enlevez son jouet, il pique une crise, il ne supporte pas qu'on lui enlève son jouet. Mais un homme de 35 ans, vous lui enlevez, je ne sais pas, son ordinateur, bon, c'est vrai qu'il va piquer aussi une crise, mais il devrait avoir assez de maturité pour dire, mon lecteur de DVD ne marche plus, bon, mais c'est pas grave, je peux m'en passer, j'ai des livres, j'ai une certaine maturité, je peux ne pas piquer une crise et me jeter à terre et taper des 4 membres sur le sol. Il devrait avoir acquis assez de maîtrise de soi pour supporter une petite perte. Et donc Dieu dose par rapport à notre maturité. Mais si un chrétien vient vers vous et dit de toute façon, je sais que je vais tomber, la tentation est trop forte. On peut lui montrer ce verset, on peut lui montrer, Dieu te permet de connaître cette tentation, mais elle n'est pas trop forte, parce qu'il sait que tu as les moyens, en comptant sur lui, d'être victorieux, sinon il n'aurait pas permis que tu sois tenté. Satan, lui, si Dieu ne le limitait pas, il vous enverrait des tentations, mais qu'il soit beaucoup au-dessus de nos forces, parce que son désir, c'est de nous détruire. Lui, il ne travaille pas loyalement. Mais Dieu limite cela. Bien. Alors, pourquoi péchons-nous? Eh bien, parce que notre chair est trop forte pour nous. Alors, la tentation, elle est limitée par Dieu. Et on peut en être vainqueur, oui. Ok. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Ça veut dire quoi? C'est que nous n'avons jamais le genre de tentation qui ont frappé les anges. Toutes les tentations que nous avons sont adaptées à notre condition humaine. Ce sont des tentations qui sont propres aux êtres humains. Je pense que si nous avions été tentés par le diable, Lucifer, comme les anges dans le ciel ont été tentés, on aurait succombé tout de suite parce qu'on n'est pas du tout à leur hauteur. Donc Dieu nous vit dans une classe d'êtres humains et il y a des tentations qui sont propres aux êtres humains. Et il dit, si vous êtes humains, eh bien vous pouvez résister aux tentations que je vous permettrai de connaître. Parce que je vous connais parfaitement et je doserai la tentation au point que vous puissiez la supporter ou y résister suivant le cas, avec mon aide. Alors, ce qui est important, c'est avec son aide. Parce que si on pouvait résister à toutes les tentations sans son aide, normalement, je ne devrais jamais pécher. Mais nous péchons quand la tentation vient et que nous ne demandons pas l'aide de Dieu, nous sommes livrés à nos propres forces, nos propres faiblesses, et on va tomber. Donc, nous sommes incapables d'avancer dans la marche de service chrétien si nous sommes tenus par nos convoitises. Et donc, Dieu veut et on a besoin de son aide, et il nous demande quand même de participer, de faire une certaine action. Vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a rien dans la vie chrétienne que Dieu fait pour nous, tout seul, sans un peu de notre participation. Même pour le salut, Il fait 99 pas vers nous et il dit, viens ou ouvre ta porte et j'entrerai. Il faut quand même ouvrir la porte. Il y a toujours quelque chose pour nous à faire. Et dans le domaine des convoitises, nous avons une action à mener. Alors regardons 10.3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Il écrit à des chrétiens à Corinthe et dans ce verset, il donne un peu pourquoi cette église de Corinthe a tant de problèmes. Pourquoi elle a tant de problèmes? Il dit, votre manière de penser n'est pas bonne. Vous avez un mauvais schéma de pensée. Il dit, vous avez une logique dans laquelle vous êtes profondément engagé. Vous êtes comme dans une ornière qui fait 3 mètres de profondeur. Votre auto est au fond de l'ornière et vous avez tellement tourné vos pneus que vous ne pouvez pas en sortir. Ou, pour prendre une autre image, chaque jour que vous avez eu ce mauvais schéma de pensée, c'est comme si vous aviez ajouté une brique à un mur. Et maintenant, vous êtes complètement enfermé dans ces hautes murailles de fausses pensées. Et ces hautes murailles, c'est vous qui les avez mises en place en maintenant cette fausse manière de penser depuis si longtemps. Et pour sortir de vos problèmes, dit-il aux Corinthiens, et pour penser comme Dieu, vous allez devoir vous-même renverser les forteresses de mauvaises pensées que vous avez construites. Alors c'est une action très violente, épuisante. Nous renversons. Vous savez, si je vous demandais de renverser ce bâtiment, on ne le fait pas d'un coup de baguette magique. Il faudrait acheter des gros marteaux et puis enlever les fondations. Il y en a pour 1,10 m de fondation. Je ne sais pas pourquoi on a creusé si bas, mais de béton armé, il faudrait un travail, mais inouï, un effort incroyable pour détruire ce bâtiment. Parce qu'il y a beaucoup de béton. Et il y a un effort vraiment important que je nous demande de faire. Si nous voulons arrêter d'avoir de mauvaises pensées et les remplacer par des pensées pures. Et on va le voir. Regardons maintenant Colossiens 2, donc Colossiens 2, 8 à 13. C'est un passage clé par rapport à tout ceci. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors, oui, en continuant, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors, la circoncision, il parle ici de circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Dieu veut que je prenne un scalpel et que je commence à me taillader le corps? Est-ce que je dois me dépouiller du corps de la chair? Je vous garantis que si vous voulez prendre votre couteau et commencer à couper votre corps pour l'enlever d'autour de votre âme, vous allez finir dans un enterrement. Hein. On va tellement taillader que le corps n'existera plus, et d'ailleurs l'âme ne pourra plus rester sur la terre. Non, Dieu ne dit pas qu'il nous faut couper et taillader notre corps. Mais le mot clé, c'est le mot circoncision. La circoncision, c'est quelque chose dont on ne parle pas trop. On en parle un petit peu dans les services de maternité en hôpital, c'est en certains hôpitaux. On demande à la dame, si elle a un garçon, est-ce que vous voulez qu'il soit circoncis? Dans un hôpital juif, c'est systématique, mais dans la plupart des hôpitaux, maintenant on n'en parle presque plus. Et c'est quelque chose dont on ne parle jamais dans le quotidien. C'est quelque chose de tout à fait particulier, uniquement dans le domaine médical, aujourd'hui. Mais quand on lit la Bible, on est quand même surpris de voir l'accent mis sur ce mot de la circoncision. Et encore plus surpris en lisant dans la Genèse que Dieu demande que tous les mâles soient circoncis, et il dit « Ce sera ma signe, mon signe entre vous et moi, je suis votre Dieu et vous êtes mon peuple. » Et on dit « Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire comme les hindous et mettre un point rouge sur le front ?» Ou un truc comme ça. Pourquoi la circoncision ? Ben, Dieu avec son peuple, parfois, il l'appelait, ce peuple d'Israël, il l'appelait la circoncision. Les Juifs disaient, nous sommes de la circoncision. Et quand on parlait des Philistins et ses autres ennemis, on disait, oui, c'est incirconcis. Jacob, les deux fils de Jacob, avaient utilisé la circoncision pour une ruse bien terrible. Comme Shechem, le fils du chef du village, avait enlevé Dinah et avait eu des relations intimes avec leur sœur, sans être mariés, qui pour lui ne posait pas de problème, mais pour eux, oui. Ils ont dit, écoutez, si notre fille doit épouser votre fils, disait-il au chef du village, il faut que tous les hommes soient circoncis, à cette seule condition, on restera avec vous. Bon. Il devait avoir vraiment beaucoup de popularité, ce jeune homme, parce qu'ils ont persuadé tous les hommes du village à se faire circoncire, rien que pour qu'ils puissent épouser Dinah. Mais ça a tourné court parce que les frères Dinah les ont tués alors qu'ils étaient dans la souffrance de suite après la circoncision. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, politiquement correct, est un peu gênant. Quand on en parle, on ne parle pas dans une réunion d'évangélisation, de la circoncision. C'est un message que les gens ne comprendraient pas très bien. Mais l'apôtre Paul reprend tout cela et lui donne un sens que nous pouvons comprendre et que nous devons comprendre. En Romains chapitre 2, il parle à des Juifs. Des Juifs qui disent à Paul, mais quand même, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. Nous, on est quand même des Juifs. On est quand même le peuple de Dieu, notre père biologique c'est Abraham, et nous sommes circoncis le huitième jour. Et nous faisons partie du peuple de Dieu, et nous sommes le peuple de son alliance. On ne nous mélange pas avec ces païens, qui n'ont aucun lien biologique avec Abraham, notre père, et d'ailleurs qui n'ont jamais été circoncis, quand même. Ne les mettez pas ensemble avec nous dans le peuple de Dieu. Nous, d'accord, qu'on doit recevoir Jésus-Christ, c'est entendu. Mais eux, qui ne sont même pas circoncis, qu'ils reçoivent Jésus-Christ, puis qu'ils se fassent circoncire, et puis qu'ils obéissent à la loi de Moïse, et on en reparlera. Et Paul leur dit, attendez. Tous ces gens dans le désert, Coré, Dathan, Abiram, tous ces gens qui sont dressés contre Moïse, tous ces gens dont Dieu a dit vous allez mourir dans le désert et vos os seront blanchis là dans le désert parce que vous avez refusé d'aller dans le pays promis. La grande majorité des gens qui sont morts dans le désert, c'était bien le peuple d'Israël, oui. Et ils étaient tous circoncis, oui. Mais ils n'ont pas été agréables à Dieu, non. Paul dit, ce n'est pas le fait d'être circoncis qui change quelque chose et qui vous donne une faveur avec Dieu. Ne vous confiez pas là-dedans. Ça ne vous donne rien de plus. Et du coup, Mais les gens qui marchent avec Dieu, même si dans leur corps ils ne sont pas circoncis, ils sont au même pied d'égalité avec vous devant Dieu. Vous leur montrez la circoncision était un signe donné par Dieu, mais n'avait aucune valeur spirituelle. Et alors il dit, la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Et on peut se dire, mais ça c'est un nouveau concept. Circoncision du cœur, on ne connaît pas. Alors bien sûr, on sait qu'en circoncision, scission, incision, c'est couper, circon, c'est autour, couper autour de quelque chose. Et bien sûr, nous sommes des adultes et nous savons que il y a un membre que l'on peut, dont on peut couper autour un pli de la peau et on peut recoudre, c'est ce que fait le chirurgien, et ça peut aider à éviter parfois de l'infection. Le prépuce, la Bible l'appelle. Ça peut devenir un foyer d'infection si ce n'est pas soigneusement nettoyé. Et dans certaines cultures, comme la culture musulmane, encore ils vont parfois beaucoup trop loin, mais aussi parmi les juifs et dans d'autres certaines cultures, eh bien, on enlève pour des raisons d'hygiène. Mais toute l'idée de la circoncision, c'est favoriser l'hygiène d'une partie du corps qui pourrait s'infecter. On est bien d'accord? Ça, c'est toute la pensée, toute l'idée, toute la valeur de cette opération-là.
Mais c'est pas obligé de le faire.
Non, c'est pas du tout obligatoire, mais quand les gens le font, c'est généralement, soit par raison religieuse, soit par raison d'hygiène, de prévenir tout risque. Mais tout cela, bien sûr, ça c'est physique, ça c'est médical, et on ne veut pas rester trop là-dessus, mais il faut quand même en parler pour comprendre le sens. Quand on dit circoncision du cœur, on a l'impression, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut que l'on coupe notre cœur et qu'on l'enlève. Circoncire le cœur, est-ce qu'il faut enlever son cœur et être sans cœur? Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il dit, il faut que le cœur soit circoncis? Non, il ne parle pas d'enlever le cœur en coupant autour du cœur. De quoi parle-t-il? Il parle de ce que, dans le cœur, se développent des plis. Alors, pas de la pompe, hein, pas le cœur physique. Nous parlons de notre pensée. Dans notre manière de penser, on développe des plis. Alors, qu'est-ce que c'est que ces plis, si je puis le dire ainsi? Ce sont des pensées que nous avons très souvent. Par exemple, il y a des gens qui se laissent aller facilement à l'amertume. Très facilement. Il y a quelqu'un qui ne dit pas bonjour un jour à l'église, ils sont très affectés, ils rentrent à la maison, je ne comprends pas pourquoi cette personne ne m'a pas dit bonjour. Pourtant, je ne vois pas ce que j'ai pu lui faire, mais j'ai dû faire quelque chose, mais la personne ne m'a rien dit. Elle se contente de m'ignorer. Cette personne, une sœur en Christ, m'a ignoré. C'est souvent des femmes qui ont plus que des hommes, mais elle m'a ignoré, elle ne m'a pas dit bonjour. Mais pourquoi? Tout l'après-midi, on va travailler là-dessus. Ça va tourner. Le dimanche soir, on ne dort pas bien. Elle ne m'a pas dit bonjour. Elle ne m'a pas dit pourquoi. Elle me traite comme si je n'existais pas. Je ne comprends pas. C'est pas normal. C'est pas ça une chrétienne. Moi, je connais des êtres convertis qui sont plus gentils que ça. Mais pourquoi m'a-t-on fait la tête? Mais je ne comprends pas. Et qu'est-ce qu'on a... Et alors, à force de réfléchir là-dessus, ça tourne dans ma tête. Et c'est comme si vous aviez un pneu de voiture qui... Boum, boum, boum. Et il y a de la boue, et ça fait une ornière. Lendemain matin, quand on se lève et on fait la toilette, à quoi on pense? À cette sœur qui ne m'a pas dit bonjour hier. Toute la journée, on va y penser. Le mardi soir, on retourne à l'église et c'est une autre sœur qui ne me dit pas bonjour. Maintenant, le mercredi matin, je pense aux deux sœurs et je suis pour toutes sortes de raisons pourquoi on ne m'a pas dit bonjour et je commence à tomber en dépression le jeudi et le samedi, je suis rempli d'amertume et je n'ai même pas envie d'aller à l'église, comme ça, c'est des êtres, c'est plus des sœurs, c'est des êtres immondes qui ne m'ont pas dit bonjour, qui me traitent comme si je n'existais pas. Mais quelle souffrance, et on a versé des larmes de rage, des larmes de pitié de soi. Le dimanche arrive,
on va à l'église peut-être, mais alors vraiment, on est complètement démoli. On n'a pas dormi de la semaine, on ne s'est pas reposé, on n'a pensé pas une seule fois à rendre grâce à Dieu. Ça peine si on a remercié le Seigneur pour les repas. On était consumé par ces pensées qui sont devenues de l'amertume. Okay. Qu'est-ce que nous avons? On a creusé un pli dans notre pensée, un pli qui est maintenant un foyer d'infection. Notre pensée est complètement infectée d'amertume. Il y a 50 personnes dans l'église, on ne pense même pas aux 48 autres, on n'a rien que pour ces deux personnes qui ne m'ont pas dit bonjour cette semaine. Et souvent ces gens disent, je n'en peux plus, je suis crevé, j'ai une très mauvaise semaine. Alors, le pasteur s'approche et t'as des épreuves. Oh, je ne peux pas dire ce que c'est. C'est tellement horrible, je n'ose même pas le dire. Oui. On sait que si on le disait vraiment, les gens trouveraient ça ridicule. Alors, on fait le mystérieux, celui qui a une très grosse épreuve, et c'est trop, même trop, d'avoir mon temps pour partager avec vous. Il faut prier pour moi, vraiment, le Seigneur, je suis très éprouvé, et puis c'est le diable qui m'attaque, et vraiment, pauvre innocent que je suis, et tout le monde commence à prier pour la chère sœur qui a subi des attaques du diable. Il n'en est rien. Que s'est-il passé? La personne a pris un mauvais schéma de pensée et a creusé une ornière qui est devenue un foyer d'infection. Qu'est-ce qu'on peut faire? La circoncision. Tout ceci est mental, il n'y a pas de couteau dans la chair, hein? Ne sortez pas en cutter hein, chez vous. Mais l'idée c'est, on prend un cutter spirituel et on dit, ma vie a été pourrie pendant toute la semaine à cause de ces pensées que j'ai eues. Bon, revenons au début. Deux sœurs ne m'ont pas dit bonjour. Bon, je ne sais pas pourquoi elles ne m'ont pas dit bonjour. Premièrement, ce n'est pas très grave. Ce n'est vraiment pas très grave. Ils m'ont pas dit bonjour. C'est pas la fin du monde. Deuxièmement, elles ont peut-être des préoccupations que j'ignore. Et peut-être devrais-je prier pour elles si elles passent par les moments difficiles. Peut-être qu'elles ont besoin d'encouragement. Et on va commencer à réfléchir. Et de toute façon, moi, je ne leur ai pas dit bonjour non plus. Peut-être que je devrais systématiquement dire bonjour à chacun, sans tenir compte de la manière dont on me répond. Je dis bonjour, je dis que j'aime les gens, je prie pour ces gens-là, après leur réaction ne me concerne pas, ça concerne le Seigneur, mais moi je vais pour donner plus que pour recevoir. Et pendant que cette personne est en train de réfléchir bibliquement maintenant, dans l'amour de Dieu, dans l'acceptation de l'autre, cette personne est en train de prendre un cutter et de couper tout autour de ce foyer d'infection. Alors ça sent mauvais, hein? Un abcès, ça sent mauvais, c'est dégoûtant. Alors qu'est-ce qu'il y a pas? On coupe autour, on enlève le pli de la peau avec toute cette infection dedans, on va le mettre au feu pour brûler que ça n'affecte pas le restant, on va prendre une aiguille et un fil, et on va recoudre pour refermer où on a coupé, et puis mettre bien sûr un peu d'antiseptique pour que les microbes ne restent pas là, on va curer tout le coin, on va fermer ça, et on arrête, ça veut dire on arrête de penser dans ce schéma de pensée, et on adopte une autre manière de penser. C'est ça la circoncision du cœur. Quand on est venu au Seigneur, nous sommes venus avec un foyer d'infection dans notre pensée. Les pensées infectées que nous avions, c'était ceci. Je ne suis pas si mal que ça. Je suis bien mieux que d'autres gens. Jésus, il est venu pour mourir pour les pauvres bougres autour de moi, mais moi en tout cas, je crois qu'il donnera le ciel, parce que quand même... Et voilà, je vais suivre Jésus comme un bon modèle. parce qu'il sait que je suis quelqu'un de très bien, moi aussi je trouve qu'il est quelqu'un de très bien, et entre gens très bien, il y a moyen de s'entendre. Et quand je serai au ciel, eh bien, s'il y avait un problème, je négocierai avec Dieu, et il verra bien qu'il me laisse entrer dans son ciel. Est-ce que ça, ce n'est pas des pensées infectées? Ce sont des pensées fausses. Qu'est-ce qui se passe quand on se convertit? On passe par une repentance et on dit, mais les pensées que j'ai eues, c'est des pensées blasphèmes. Mais finalement, je suis un pauvre pécheur, Dieu est saint, il est pur, il devrait m'envoyer en enfer, je le mérite, mais Christ est mort pour les pécheurs dont je suis. Et son sang peut me purifier, et c'est mon seul espoir, et gloire à son nom, qu'il m'aime, moi, misérable pécheur, au point de me sauver, et je le reçois dans mon cœur, et je me réjouis de le connaître comme sauveur, et je veux parler de lui aux autres, et grâce à son amour, il m'a donné une vie nouvelle. Ça, c'est la pensée biblique. Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc, on passe par la nouvelle naissance et on a fait une circoncision majeure de tout un foyer d'infection dans notre cœur. Toute notre manière de penser de Dieu a changé. Ça, c'est la grande circoncision, on va dire. Maintenant, dans cette nouvelle vie, l'amertume, l'orgueil et tous les problèmes qu'on a vus hier soir, l'esprit du jugement, sont des foyers d'infection qui peuvent arriver dans le cœur du chrétien. Une mauvaise manière de penser dont il doit se défaire par une circoncision du cœur. Et donc, frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que la sanctification? Qu'est-ce que c'est? Comment peut-on progresser spirituellement? Comment pouvons-nous devenir des chrétiens de plus en plus mûrs et de plus en plus obéissants à Dieu? Une seule méthode, il n'y en a pas deux, une seule méthode. Nous devons évaluer assez régulièrement notre manière de penser. Dans tous les domaines. Dans le domaine du service, dans le domaine de la dîme, dans le domaine de la gestion de notre temps, dans le domaine de nos loisirs. Toute notre manière de penser, dans notre manière de considérer les autres chrétiens, dans la manière de considérer Jésus-Christ. Évaluer notre manière de penser. Et en évaluant, c'est un peu comme des logiciels qui cherchent des virus, vous savez, dans votre ordinateur, on a trouvé 34 virus. Bon, mettre en quarantaine, supprimer, garder, alors parfois c'est de mettre en quarantaine, bon. Moi, je préfère supprimer si possible. Supprimer le virus. J'ai trouvé des virus dans ma manière de penser. Je vais aller là, dans ce domaine, et ça, c'est une mauvaise manière de penser. Ça, c'est une mauvaise manière de réagir. Je sors le cutter, le scalpel, si vous préférez, c'est plus hygiénique, et je coupe. D'ailleurs, c'est une ornière assez profonde, et ça sent mauvais, je sens du cul au fond, là. C'est un vrai foyer d'infection et ça pourrait infecter d'autres manières de penser. Parce que si nous avons une manière défectueuse de penser dans un domaine, dans peu de temps, on va avoir une manière défectueuse de penser dans d'autres domaines. Et du coup, puis autour, et d'enlever, de le jeter, de nettoyer, de recoudre, et dire, je refuse de penser de cette manière-là à partir de maintenant. Alors ça peut être plein de choses. Un domaine qui est terrible, c'est la pornographie. La pornographie, c'est quelque chose, pour les gens qui en sont affectés, c'est un esclavage, mais un des pires esclavages connus. J'ai plusieurs amis qui luttent, mais alors des luttes titanesques avec la pornographie. Souvent, ça a commencé quand ils étaient jeunes, bien longtemps avant la puberté. Et à 40 ans, ils y sont encore à lutter. Mais ils pleurent, parce que c'est tellement quelque chose pour lequel ils ont développé cet appétit. Et pourtant, ils se rendent compte que c'est très malsain, et ça affecte leur manière de voir les femmes en général, eux-mêmes. C'est quelque chose qui met des tentacules dans plein de domaines de leur vie, dans leur image d'eux-mêmes, dans leur assurance, dans leur... de tout, dans toutes les manières. C'est infecté, c'est comme des tentacules. Que faire? Que faire?
Bon, déjà, la circoncision, c'est je refuse de regarder ces images. Et on prend des mesures nécessaires. J'en connais un, il s'est débarrassé de son ordinateur. Pourtant, il aime l'informatique. Enfin, il n'a plus l'Internet. Voilà, plutôt. Il dit, Internet, c'est un vecteur d'images, je sais où les trouver, et je ne peux pas avoir Internet chez moi pour cette raison-là. Il a fait un travail responsable de circoncision. Il a enlevé des tentations. Il a enlevé une source de tentation. Il va dans certains magasins, il évite les magasins où l'on vend des mauvaises revues. Il évite, quand il faut qu'il aille dans un magasin, il repère là où sont les revues et il va de l'autre côté et il ne s'approche même pas de ce coin du magasin. Pourquoi? Parce qu'il veut la victoire. Et donc, il sait la victoire, c'est déjà arrêter la source de la pollution. Ne plus permettre à la pollution de venir par la porte de mes yeux. Et puis, quand les mauvaises images viennent dans la mémoire, parce que vous savez aussi bien que moi, que nous avons des milliers d'images, c'est pas JPEG, mais on a des milliers d'images en couleur dans notre mémoire. Il suffit quelquefois de fermer les yeux et on voit le temps arc-en-ciel dans toute sa splendeur et plutôt les Pyrénées. On voit ceci, on voit le visage d'un frère, on voit le visage de ses parents, on voit quelque chose qui nous a marqué. On revient à une expérience, on a une mémoire olfactive, on peut ressentir ou avoir le souvenir dans certains parfums, et on a l'impression quand même qu'on peut le sentir alors qu'on n'est même pas. On a une mémoire extraordinaire. Mais quand Satan et notre mauvaise nature va dans les archives de notre mémoire, va dans les dossiers où voilà une image vraiment croustillante. C'est une de ses préférées. Je vais lui ramener sur la visionneuse. Tiens, tu te souviens de cette image-là? Oui, je me souviens. Elle est toujours là dans les archives. Oui, mais je refuse de la regarder. Je refuse de, comme dit les proverbes, fermer les yeux, mordre les lèvres et dire non, je refuse. Je refuse. J'ai circoncis, j'ai recousu et je refuse de laisser creuser une nouvelle ornière dans ma pensée. C'est ça la sanctification. La sanctification, ce n'est pas ne plus avoir de mauvaises pensées. Ça, c'est la perfection. Et le diable vous dira, tu as une mauvaise pensée hier après-midi à 3h45. Tu te souviens de... Ben oui, je me souviens. C'était bien ou mal? Ah, mais c'était très mal. Ah, tu te souviens de l'avoir eu? Ah oui, je me souviens. Alors, tu te dis enfant de Dieu, tu es même au camp arc-en-ciel, avec des gens vraiment spirituels, mais s'ils avaient su la pensée que tu as eue à 3h45, ils te mépriseraient tous, hein. Ils te souriraient pour la bise, mais s'ils savaient ce que tu as eu comme pensée hier après-midi, ils te mépriseraient, et ça, tu peux en être certain. Ils ont l'air gentils comme ça, mais tout ça, c'est des gens vraiment purs, et des pourris comme toi, tu n'as pas ta place parmi eux, tu devrais d'ailleurs les quitter. Peut-être même tu amènes la malédiction sur ces gens à cause de la pensée que tu as hier à 3h45. D'où est-ce que vient ce discours? Ça vient de Satan. Ce n'est pas un péché d'avoir une mauvaise pensée. J'espère que ça va sauver. Mais Satan veut nous persuader que c'est un péché d'avoir une mauvaise pensée. Parce que lui, il peut nous envoyer des mauvaises pensées. Ça s'appelle des flèches enflammées du malin. Il n'envoie pas des vraies fléchettes, il envoie des pensées. Ce sont des pensées. Lui les envoie. Maintenant, nous, on peut dire, oula, cette pensée, je ne la veux pas, je ne l'ai pas désirée, je ne veux pas l'entretenir, je veux la repousser, je veux lui tourner le dos, je veux l'ignorer, je veux faire le mort devant cette pensée, je veux vivre comme si je ne l'avais jamais eue. Je le refuse de l'entretenir. Vous avez la victoire. Ou alors, la flèche vient, ou la mauvaise pensée, ou elle est mauvaise, mais elle fait plaisir. Ah, cette pensée, ah oui, je veux la tourner un peu dans tous les sens.
C'est une pensée de jalousie, une pensée d'amertume, une pensée d'orgueil. Pas uniquement des pensées moralement impures. Dans la mesure où nous refusons d'entretenir ces pensées, nous sommes dans la victoire. Nous circoncisons notre cœur. Nous enlevons de notre cœur le mauvais schéma de pensée. Nous renversons les forteresses et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Et ce mot « nous amenons captive » fait référence à quelqu'un qui a un cheval sauvage. Il monte sur le cheval sauvage. Le cheval cadre, saute dans toutes les directions. Il le tient à son cou. Il reste, il refuse d'être en descente, il refuse d'être jeté par le cheval et puis il prend un mort, il met dans la bouche du cheval et puis il prend des reins et puis il tire toutes ses forces et puis le cheval est épuisé, il est obligé d'arrêter. Puis on va apprivoiser ce cheval sauvage et puis on va le faire marcher et agir comme on veut, on prend le contrôle de ce cheval sauvage. Nos pensées sont comme un cheval sauvage. Ça va dans tous les sens. Ça part, mais alors, et on dit, wouh, d'où est-ce que viennent ces pensées? Et puis, elles se bombardent. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Ça veut dire, je refuse de garder et d'entretenir cette pensée. Je ne la veux pas et je refuse de l'entretenir. Je refuse! C'est nous qui devons prendre la décision. C'est nous qui devons renverser la forteresse. C'est ce qu'il dit. Il n'a pas dit Dieu renversera les forteresses. Il dit nous renversons les forteresses. Et tout auteur qui se lève contre la connaissance de Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que nous voulions voir ce matin. C'est le moyen. Alors, en revenant à notre verset. Il ne vous est survenu aucune tentation qui n'ait été humaine. Mais Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas, ça c'est son engagement, que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, prévoira aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et le moyen d'en sortir, c'est la circoncision du cœur, la circoncision de la pensée. C'est renverser les forteresses et amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Notre vie chrétienne tout entière est gagnée ou perdue dans nos pensées. Quelqu'un qui a les pensées de Dieu, c'est quelqu'un qui a les réactions de Dieu. Quelqu'un qui a les pensées du monde, c'est quelqu'un qui agit, qui a les valeurs du monde, et du coup ne peut pas être un chrétien sanctifié, puisqu'il est chrétien mondain. Et l'amour du monde et la haine contre Dieu. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants et nous te prions de nous fortifier pour la suite et la fin de ce séminaire et merci pour ces vérités qui sont si grandes, si belles, si simples et en même temps si profondes. Permets-nous, chacun de nous, la prochaine fois que nous aurons une tentation, une sollicitation à faire le mal, à nous souvenir de cette vérité, de sortir le scalpel, de couper, de coudre, de refuser d'entretenir nos anciennes pensées, nos anciennes réactions, nos anciennes attitudes, et de revêtir les attitudes, les pensées, les sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.